Nous sommes heureux d'être parmi vous ce soir. Donc, comme il a été dit, nous sommes mariés depuis 44 ans. Nous sommes parents de 4 enfants et de 5 petits-enfants. Donc, nos enfants ont de 37 à 42 ans. Et nos petits-enfants ont de 10 mois à 18 ans. C'est pour vous brosser un petit peu. Alors, nous voulons, je pense qu'on peut faire une courte prière au Seigneur pour nous recueillir. Seigneur, nous te bénissons d'être au milieu de nous. Et nous réalisons tellement en ces temps de la fin difficile que nous avons besoin de toute ta grâce dans nos foyers pour tenir. Pour que nos foyers ne se brisent pas, il y en a tant qui se brisent. Mais si toi, tu es au milieu de nous, tu nous aideras à rester debout, à rester fidèles. Grâce à toi, tout n'est que grâce de toute manière. C'est vrai, Seigneur, nous avons 44 ans de mariage et de ministère, mais nous réalisons tellement que tout n'est que grâce. Et nous voulons te dire un grand merci, Samuel et moi, ce soir, de nous avoir gardés pendant toutes ces années. Vous savez, personne ne peut avoir la tête haute et juste dire « c'est moi, c'est à cause de moi ». Nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, de conduire maintenant cette soirée. Inspire-nous, aide-nous, Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a juste donné cette image et je trouve que aujourd'hui, pour comme introduction, est cette pensée qu'un foyer, c'est comme une maison qu'on construit. Et on ne construit pas une maison n'importe comment. Vous connaissez l'histoire dans Matthieu 7 de celui qui a construit sa maison sur le sable et celui qui a construit sa maison sur le roc et la différence des deux maisons. Ce qui est arrivé aux deux maisons. Celle qui était construite sur le sable, la tempête est arrivée, a soufflé et la maison s'est écroulée parce qu'elle était construite sur le sable. Tandis que celle qui était construite sur le roc, eh bien, elle a tenu contre vents et marées. Et le Seigneur voudrait que nous construisions notre maison, c'est-à-dire notre foyer, sur le roc qu'est Jésus. Parce que sans lui, nous sombrerons, nous serons des maisons construites sur le sable. Et les vents et marées souffleront contre nous et nous croulerons aussi. Nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces pour tenir la maison debout. La maison doit être fondée sur le roc. Il est vrai que si nous voulons construire un foyer stable, heureux, équilibré, qui glorifie notre Seigneur, il est primordial de construire notre foyer en ne comptant pas sur nos propres forces, sur notre propre sagesse ou sur nos idées, mais sur celles de notre Créateur, notre Seigneur, parce que en fait c'est lui qui a institué le mariage. C'est lui, notre Créateur, qui nous a créés et qui sait de quoi nous sommes faits. Alors, nous avons tant besoin de lui. J'ai préparé 7 règles pour un bonheur conjugal. Je serai brève. Je ne vais pas trop les développer. La première règle pour mettre un fondement solide à notre maison, à notre foyer, c'est de veiller à notre santé spirituelle, chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas avoir un foyer solide si nous ne sommes pas d'abord un bon chrétien, une bonne chrétienne. C'est impossible. Parce que des tensions viendront dans le foyer, et si nous ne sommes pas reliés avec notre Créateur, celui qui a créé le mariage, le foyer, eh bien, nous sombrerons aussi. Mais si nous veillons à ce que notre relation avec le Seigneur soit intacte et forte, notre maison tiendra. Et le Seigneur saura nous ramener l'un vers l'autre s'il y a des tensions, s'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés. Donc, première règle, être une bonne chrétienne pour la dame et un bon chrétien pour le mari. C'est important. Donc, avant d'être un bon mari, une bonne épouse, il faut d'abord être un bon chrétien, une bonne chrétienne. Deuxième règle, le mariage selon, il faut savoir que le mariage selon Dieu est une relation permanente. On se marie pour la vie selon Dieu. Pas pour 6 mois et quand à la première tension ou à la première difficulté, on claque la porte et on s'en va. La relation que le Seigneur a prévue dans le mariage, c'est une relation à vie. C'est son plan. C'est ce qu'il a prévu. C'est ce qu'il aimerait qu'il se passe. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est pas tellement ce qu'on voit souvent, mais c'est à nous d'y veiller. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Le Seigneur nous aidera. Et j'ai noté que le mariage est une institution établie par Dieu et l'expression originale du mariage, c'est l'homme s'attachera à sa femme et ce mot attaché est tellement fort que ça veut dire coller. L'homme sera collé à sa femme ou la femme à son mari. C'est beau, hein? Ça montre la force. Si on est collé, ben on est collé. On ne peut pas tellement se décoller hein, quand on est collé. Ou on pourrait dire aussi soudé. L'homme est soudé à sa femme et il ne forme plus qu'un. Et cette unité très très forte que nous sommes en tant que couple n'est pas seulement sur le plan physique, mais doit être aussi sur le plan spirituel. Vous comprenez? Parce que le plan physique, ça marchera toujours. Mais le plan spirituel, on peut ne pas avoir les mêmes pensées, on peut ne pas être unis spirituellement. Et là, c'est tout un travail qu'il faut rechercher. Donc, l'engagement du mariage, c'est un engagement total de 2 personnes dont le but est l'unité parfaite, l'intimité absolue, un libre partage des pensées et des sentiments les plus secrets. Le mariage est une union sacrée. Un homme et une femme unis ensemble pour se compléter l'un l'autre. Si le couple réalise cela, chacun d'entre eux sera moins tenté de blesser l'autre. Retenez ça, c'est important. Si vous réalisez que nous sommes une unité, que nous sommes collés l'un à l'autre et que c'est Dieu qui nous a collés ensemble, si nous sommes chrétiens, eh bien, nous serons moins tentés de chercher à nous blesser l'un l'autre. Parce qu'on sait très bien que si on blesse l'autre, on se blesse soi-même, puisqu'on est une unité. Donc, ce n'est pas la peine d'être méchant ou méchante avec son conjoint, de dire de mauvaises paroles, parce qu'en le faisant, on blesse l'autre et on se blesse soi-même. Il ne faut pas croire qu'on peut blesser l'autre sans se blesser soi-même. C'est une réalité, ça. On le découvre au fil de la vie. Parce que je vous dis tout de suite que ça n'existe pas un couple sans tension jamais. Oui, où tout est toujours, on est toujours parfaitement unis. Ça n'existe pas. S'il y en a un ce soir, je vais le prendre en photo. Ici, s'il y en a un qui dit « Ah, nous, non, c'est pas comme ça, nous. » Voilà, deuxième conseil, c'est donc de réaliser que le mariage est quelque chose de permanent, de solide, on est soudés ensemble. Troisième règle, c'est de réaliser que ce que Dieu a prévu, c'est la complémentarité dans le couple. C'est-à-dire, la femme a été unie à l'homme pour compléter l'homme. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, le Seigneur ne s'est pas trompé en créant la femme. L'homme, il l'a trouvé incomplet et il a trouvé qu'il avait besoin d'une femme. Alors, si tous les deux, on réalise que c'est le plan de Dieu de se compléter l'un l'autre, alors on y veille et on fait attention. Et quelqu'un a dit que l'homme est la tête du foyer et la femme le cœur. Et c'est vrai. On est complémentaires dans ce domaine-là parce que l'homme, c'est le chef du foyer, comme le dit un autre passage. Et puis la femme, elle est plus sentimentale, alors elle apporte la chaleur du cœur dans le foyer. L'homme, c'est le cerveau, c'est le chef, c'est le responsable, et la femme, c'est le cœur. Est-ce qu'un corps, il n'a qu'une tête? Est-ce qu'avec une tête, il peut fonctionner tout seul, un corps? Il a besoin du cœur aussi. Et il en est ainsi dans le foyer. Un foyer où il n'y a qu'une tête, ou bien un foyer où il n'y a qu'un cœur, il sera vraiment déséquilibré. Il faut réaliser que Dieu a créé la femme pour être l'aide, le complément, l'aide, le soutien, le complément de l'homme. Et j'aimerais lire un passage dans la Genèse, Genèse 2, 18, un passage que vous connaissez bien. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 18 et au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et ensuite au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, on voit là, dans le commentaire qu'il y a en dessous dans ma Bible, il est dit qu'une aide, quand Dieu a créé la femme pour être une aide semblable au mari, Il est dit que la femme a été créée pour être une aide, une tendre compagne pour l'homme, et en tant que telle, elle devait partager ses responsabilités. Vous vous rendez compte? Partager ses responsabilités et coopérer avec lui afin d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie et celle de leur famille. L'homme ne prend pas ses décisions comme ça tout seul. Il est le chef, c'est vrai, c'est lui qui a la décision finale. Mais il doit consulter sa femme aussi. Parce que Dieu l'a placé à côté de lui pour l'aider dans ses décisions, pour le soutenir, pour l'encourager quand il est découragé, pour être son complément dans différents domaines. Bien sûr, je ne peux pas développer tout ça, c'est beaucoup trop long. Voilà, en tout cas, il faut aussi réaliser que nous sommes complémentaires dans le foyer. Une quatrième règle importante, apprendre à gérer les tensions dans notre couple. Vous savez, il nous arrive à tous d'avoir des tensions dans le couple, que d'un seul coup, on ne se comprend plus, ou on a des idées différentes, et qui vont dans une autre, l'un dans une direction, l'autre dans l'autre. Alors, je vous dis quelque chose que vous pouvez expérimenter et que vraiment je vous conseille de faire avant de chercher une solution vous-même pour que vous reveniez ensemble quand vous êtes chamaillé, comme on dit ou comment vous dites ici, je ne sais pas,
chicané.
Quand vous êtes chicané pour revenir ensemble, c'est parfois très difficile parce que on ne sait pas très bien comment faire. Chacun, on reste en boude, chacun dans son coin, et puis on ne sait plus bien comment revenir ensemble. Alors je vous dis une chose que vous pouvez vraiment faire et que nous avons fait durant toutes ces années, c'est de chercher, de dire au Seigneur, Seigneur, aide-nous. Si chacun de vous, dans son coin, puisque vous êtes momentanément chacun dans votre coin, chacun dans votre tour, dites simplement au Seigneur, Seigneur, aide-moi, je veux faire ma part. Si j'ai à demander pardon, je veux le faire. Si chacun de vous le fait, le Seigneur vous ramènera forcément l'un vers l'autre. Nous avons ce grand privilège d'avoir entre nous deux le Seigneur. Et le Seigneur, c'est pas n'importe qui, vous le savez bien. Heureusement qu'il est là. Et qui nous aide toujours à revenir l'un vers l'autre. Donc quand nous avons des tensions, demandons plutôt l'aide du Seigneur que de chercher à résoudre nos tensions par nos propres forces ou nos idées personnelles. Le Seigneur saura comment nous remettre sur les rails. Il est, dit la parole, le réparateur des brèches. Et parfois il y a des brèches qui sont faites entre nous. Comment les réparer ? Le divin créateur, s'il vient, il saura le faire, lui. Parce qu'il a une sagesse suprême. Il est le professeur des professeurs, il est l'éducateur le plus élevé qui soit. C'est celui qui nous a créés, l'un comme l'autre. Donc, il saura comment faire pour vous ramener ensemble. Adressons-nous à lui quand nous avons des problèmes. Le meilleur des conseils que je puisse donner et que nous avons expérimenté. Cinquième conseil, bannir absolument de notre vocabulaire le mot divorce. Faut que ça ne sorte jamais de votre bouche. Parce que c'est le commencement de la destruction du couple. Et il faut que les époux, tous les deux, se mettent d'accord. On ne dira jamais ça, même si on se fâche l'un avec l'autre. Mais ne parlons jamais de divorce. Surtout quand il y a des tensions. Cela évitera le dérapage et empêchera l'ennemi de vous conduire là où vous ne voudriez même pas aller. c'est-à-dire aller plus loin et de plus en plus loin. Et si vous avez dit le mot divorce une fois, vous le ferez une deuxième fois et vous le direz une troisième fois, une quatrième fois et pour finir, ça va se faire. Alors il faut absolument décider de ne jamais dire ce mot. Et si vous l'avez dit, demandez pardon au Seigneur et puis demandez pardon à votre époux. Demandez-vous pardon mutuellement et décidez ensemble. C'est un conseil que je vous donne, de ne jamais dire ce mot. Ça vous tiendra ensemble. Sixième règle. Pour nous ramener l'un vers l'autre, parce qu'il faut beaucoup de médicaments aujourd'hui pour ramener les conjoints l'un vers l'autre, puisqu'il y a tant de divorces, ça veut dire qu'on se sépare trop facilement. Le pardon est le moyen par excellence pour réparer nos brèches, pour nous réconcilier, le pardon. Aujourd'hui, où tant de foyers sont brisés, tant de familles se désintègrent, ce qui n'engendre que solitude, amertume, haine, rébellion, vengeance, même meurtre, combien il est urgent de découvrir notre arme la plus efficace, nous les chrétiens. Nous avons une arme contre le divorce. C'est le pardon. Le pardon. Le pardon, nous avons écrit un livre, Le pardon, une puissance qui libère. C'est valable à l'échelle personnelle, mais c'est aussi valable à l'échelle du couple. Le pardon est une puissance qui libère. Il vous libérera, vous madame, vous monsieur, et il libérera votre couple aussi. Très important, le pardon est le remède par excellence pour nous réconcilier. Alors, quand nous avons un différent, décidons de pardonner à notre conjoint qui nous a blessés. Admettons que c'est monsieur qui a blessé madame. Alors, madame, votre décision doit être de pardonner à votre mari s'il vous a blessé. Pareil pour vous, si c'est votre épouse qui vous a blessé, décidez de pardonner parce que ne restez pas, ne vous couchez pas sur votre colère. Oubliez-vous vous-même et pensez à l'épanouissement de l'autre plus qu'à votre blessure. Et si vous avez blessé l'autre, celui qui a blessé l'autre doit se remettre en question. Si tu vois que tu as blessé ta femme, demande-lui pardon. Ou si tu as blessé ton mari, demande-lui pardon. Lorsque nous avons réalisé que nous avons blessé notre époux, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et à ce moment-là, le Seigneur nous aidera. Et il nous ramènera l'un vers l'autre. Ce sera le moyen de réconciliation le plus évident, le plus fort, le plus puissant. Comme le Seigneur nous a pardonnés, pardonnons-nous réciproquement. Parce que celui qui ne pardonne pas sera toujours celui qui souffrira le plus dans la situation. Si tu refuses de pardonner, c'est toi qui vas souffrir. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu remplis ton cœur de ressentiment. Et ce ressentiment que tu laisses mijoter dans ton cœur te fera souffrir. Te fera souffrir plus même que la faute de ton conjoint. Si ton conjoint t'a fait mal, et si tu ne lui pardonnes pas, si tu gardes de l'amertume contre ton conjoint, eh bien, ton conjoint t'a fait mal, ça te fait mal, ça te fait une blessure, mais l'amertume que tu as suite à ce mal qu'elle t'a fait ou qu'il t'a fait, te fera encore plus souffrir. Donc, on a avantage à pardonner. Comprenez? Vous n'êtes pas maître des actions de l'autre, mais vous pouvez contrôler vos propres réactions. C'est important, ça. Vous ne pouvez pas contrôler la réaction de votre conjoint, parce que personne ne peut changer le conjoint. Mais vous pouvez contrôler votre propre réaction face à ce qui se passe. Septième règle et dernière règle. L'importance pour un couple de prier ensemble et de choisir des moments de tête-à-tête avec votre conjoint. Quelqu'un a dit, des époux qui prient ensemble restent ensemble. Si vous ne priez pas ensemble, c'est bien de prier chacun pour soi. C'est vrai que nous devons chacun avoir notre relation avec Dieu personnelle d'abord, c'est vrai, mais cela ne remplacera jamais la relation, le moment de prière ensemble. C'est important parce que dans la prière, quand chacun prie de son côté, l'unité peut pas se faire. Le Seigneur peut pas nous unir de la même façon que quand nous prions ensemble. Parce que on peut pas prier longtemps ensemble en gardant de l'amertume dans son cœur. Parce que le Seigneur révèle tout de suite que à l'un ou à l'autre, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis, il nous aide à ce moment-là à nous humilier, à nous en repentir. Et il nous aide donc à remettre les choses en place. Efforçons-nous aussi de choisir des moments de tête à tête. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, d'hommes ou de femmes, qui sont tellement occupés par leur travail que des moments avec son conjoint, ça devient de plus en plus rare, on court chacun de son côté. On n'a plus le temps, il y en a même qui se croisent. L'un travaille le jour, l'autre la nuit, c'est difficile. Mais il faut choisir un moment où, régulièrement, où on se retrouve tous les deux. C'est parfois difficile quand les enfants sont petits, c'est vrai, c'est difficile. Parce que la maman est très occupée quand les enfants sont petits, le papa aussi peut-être. Mais donc, il faut décider de prendre du temps pour dialoguer avec votre conjoint. Parce que faute de dialogue, le couple peut avoir de sérieux problèmes, chacun vivant sa vie de son côté. Ça, c'est une règle aussi qu'il faut observer et où il faut décider de changer les choses. Si jusqu'à présent vous n'avez pas prié ensemble, vous n'avez pas eu de tête-à-tête régulièrement de votre couple, je vous encourage beaucoup à prendre cette décision et à changer vos habitudes. Alors j'arrête là et je vais laisser la place à mon mari qui va continuer. Je te prie, Seigneur, d'appliquer ces quelques paroles à nous tous. C'est vrai que nous avons tous des progrès à faire. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu vas continuer de nous parler et de nous exhorter au travers de ta parole. Seigneur, merci d'être au milieu de nous et de t'occuper de chacune de nos vies. Nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes, nous voulons vivre à ta gloire, pour être une lumière dans ce monde, afin que d'autres voient que nous aimons et que c'est toi qui nous as unis, Seigneur. Oh, merci de continuer de nous parler maintenant. À toi la gloire, la puissance et le règne qui te revient. Seigneur, établis la paix dans chacun de nos foyers s'il y a des tensions. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Amen.
Amen.
Thank you. l'amour.